On est heureux ce matin d'accueillir parmi nous le major Joël Etcheverry. Le major Joël Etcheverry est le responsable de l'armée du salut sur le poste de Strasbourg. Son épouse Karen n'a pas pu venir avec lui ce matin, mais nous le chargeons de lui transmettre toute notre affection, toutes nos chaleureuses salutations. Je lui ai demandé de venir nous parler aujourd'hui. On a les uns et les autres entendu parler de l'armée du salut. On sait vaguement ce que c'est, mais c'est quoi vraiment l'armée du salut? Et quel travail se fait-il vraiment ici à Strasbourg? C'est ce qu'on va entendre donc au travers du témoignage de Joël Etcheverry. Il vient aussi avec une parole de Dieu. On veut être vraiment attentif et on veut vraiment écouter ce que le Seigneur a placé sur son corps. Je le remercie d'être là. Il rentre d'un camp où il a été en Belgique et malgré les aléas, la fatigue, etc., il est avec nous. Donc merci Joël d'être avec nous ce matin. On l'accueille chaleureusement au milieu de nous.
Merci Michel. Merci à chacun. Bonjour. J'aimerais bien vous faire la bise à tous, mais je n'ai pas vraiment le temps. Mais vraiment, je suis très heureux d'être là. Vraiment, le Seigneur me bénit ce matin d'être avec vous. Même si on a un petit peu chaud, mais c'est bien, c'est convivial, c'est chouette. L'armée du salut, c'est vrai que tout le monde connaît, et pas vraiment en fait. Mais même moi, des fois, je me demande encore. Il y a des textes dans la parole de Dieu qui nous disent que nous sommes tous des soldats de Christ. Amen. Nous, on a pris ça à la lettre. On est des soldats en uniforme. Un jour, certains combats méritent une armée. Souvent, on a l'habitude de dire que l'armée du salut, ce sont les spécialistes du social. On nous connaît pour nos actions sociales, on nous connaît pour les fameuses clochettes à Noël, avec le petit groupe qui chante, etc. Alors j'aimerais juste corriger une petite erreur. Ça, c'est quelque chose qui nous fait toujours mal au cœur. Nous ne sommes pas des spécialistes, d'une part, et nous ne sommes pas les spécialistes du social. Deuxième, notre champ de mission, notre cœur, notre âme est à particulièrement motivé par l'annonce de l'évangile. Et l'annonce de l'évangile, en particulier pour les publics qui sont les plus en difficulté, les plus défavorisés. Ça, c'est notre amour particulier pour les personnes qui sont dans les grandes difficultés. Et notre désir, c'est leur apporter l'évangile. Mais avec des paroles, ça ne passe pas toujours. Et il faut montrer l'amour de Dieu par des gestes. Voilà, c'est notre technique. Un homme et une femme, William et Catherine Booth, si tu peux passer je vais faire très rapidement. Voilà. Au milieu du 19e siècle, donc, l'armée du salut est une vieille dame qui est née en Angleterre, à Londres, avec ce désir, c'est d'apporter l'évangile dans le quartier où William Booth était. Il avait envie de partager l'évangile parce qu'il avait fait une découverte extraordinaire, c'est que le Christ sauve et relève. Il voulait partager ça avec les gens de son quartier, qui était un quartier qui est décrit par Dickens. Vous savez, c'est les fameux quartiers dans l'est de Londres, milieu du 19e siècle, où les enfants meurent jeunes, les familles sont en grande difficulté. La plupart des hommes qui travaillent dans les usines sont pris par l'alcoolisme. Les femmes sont parfois obligées de se prostituer. Enfin voilà, c'est un peu un cliché, mais c'est un peu ça. Et il voulait partager l'évangile. Sauf que quand il a amené les gens, parce qu'il est devenu pasteur, et il voulait amener les gens dans son église, et puis il ne collait pas parce qu'il ne connaissait pas les cantiques. Il connaissait plutôt les champaillards. Et puis les enfants, ils n'avaient pas l'habitude de rester. Il n'y avait pas d'école du dimanche à l'époque. Hein. Ils n'avaient pas l'habitude de rester assis, puisqu'ils avaient l'habitude de courir dans les rues. Sales, ça ne sentait pas très bon. Le vin de la Sainte-Seine, le premier qui buvait, il avait déjà tout pris. Donc ça posait quelques questions quand même. Et rapidement, l'organisation a dit à William et à Catherine, écoutez, il y a un problème. C'est bien votre appel, c'est bien de partager l'évangile, c'est bien d'aller avec ces gens-là, mais soit vous restez avec eux dehors, soit vous venez dedans sans eux. Et leur choix était catégorique. Notre appel est auprès de ces personnes-là, donc ils sont partis et ils ont monté ce qui s'appelait la mission chrétienne. Avec toujours ce désir, c'est de parler d'un évangile qui relève, d'un Christ qui est mort pour nous, pas seulement, mais qui est ressuscité et qui permet de ressusciter chacun aussi à son tour. Et c'est ça, c'est ce message-là que William et Catherine voulaient absolument apporter. Donc là, on est au milieu du 19e siècle. Vous inquiétez pas, je ne vais pas remonter le temps pendant 20 ans, non, ça ne m'obéit pas. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi, mais c'est gentil si c'est toi. Une armée, alors on a un petit logo, une armée, une mission, un message. Alors c'est vrai qu'on est une armée. Le fondateur s'est rendu compte qu'en fait, il fallait quelque chose de très structuré. Et rapidement, il a été surnommé le général. Mais c'était pour se moquer un peu de lui. Le général, il donne des ordres, etc. Mais ils avaient l'habitude d'envoyer des petites équipes un peu partout, qu'ils ont appelées des commandos. Et puis, ils ont eu l'habitude de s'habiller. Quand quelqu'un se convertissait, ils changeaient d'habit. Et à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. On s'habillait le dimanche et la semaine. Hein. Et là, ils changeaient d'habit. Et sur leurs habits, ils cousaient des phrases. Par exemple, « Jésus m'a sauvé ». Voilà, des choses comme ça qui étaient flash. Alors, d'un coup, ça devenait un peu bizarre parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas écrire et qui voulaient coudre des phrases. Alors, il y avait des magnifiques versets. Et un jour, on raconte que quelqu'un est allé voir son couturier en disant « Écoute, j'ai vraiment envie de témoigner. J'aimerais que tu mettes « je suis sauvé sur le devant et je vais au ciel sur le derrière ». Et le couturier, pour se moquer de lui, a vraiment cousu « Je suis sauvé sur le devant et je vais au ciel sur le derrière ». Sauf qu'en anglais, « I go to the heaven on the back », c'est beaucoup plus vulgaire que le « derrière », si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le fondateur a dit « Oh là là, ça commence à aller dans n'importe quoi. Il faut que les gens puissent comprendre qu'on est dans un mouvement qui parle de la foi. » Et donc, c'est de cela qu'il se dit « Mais si, on est organisé, on va faire des commandos, ça c'est bien, il faut qu'on soit une armée. » Et puis, l'armée est arrivée, « The Salvation Army ». Alors, vous savez comment on nous surnomme dans la rue ? Les brigades du coucou. Mais le salut, c'est pas ça, c'est pas coucou. Hein. On est tous d'accord, on a tous compris de quel salut on parlait. Hein. En anglais, c'est facile, c'est Salvation Army. Et voilà, donc ça s'est développé partout dans le monde anglophone, d'abord, puis après partout dans le monde. C'est arrivé en France en 1881, toujours avec ce désir de partager l'évangile, mais de le matérialiser. Donc voilà, pour ça, je suis en uniforme. Hein. Je vais rapidement, parce que je sais qu'au bout d'un moment, vous allez vous endormir, donc je vais quand même... Non, je crois qu'il faut que tu m'aides... Un message, Dieu relève, libère, parce qu'il aime sa création et il veut avoir une vraie relation avec nous. Ce que Dieu fait en nous doit se voir à l'extérieur de nous et il t'appelle à le transmettre. Et l'idée, c'était vraiment de dire, tu es sauvé, dis-le et maintenant viens nous rejoindre, on va aller chercher d'autres qui sont encore dans la galère, qui sont dans la misère. Et c'était comme ça de pouvoir embarquer ceux qui étaient sauvés. Et aujourd'hui dans le monde, alors on va faire rapidement, si tu peux passer tout de suite la deuxième flèche. Voilà, dans 131 pays, 14 000 postes, blablabla, ça c'est juste pour impressionner, pour que tout le monde dise « Ah ouais !» Voilà. Mais passer ça c'est pas très important. Ça c'est pour vous dire que c'est un peu partout dans le monde. Et chaque fois dans les différents endroits du monde, l'armée des cieux essaye d'avoir une action qui est ciblée sur le contexte. Le contexte, c'est-à-dire qu'en Europe, ce sera plus des actions en faveur de ceux qui sont en prise avec l'alcoolisme, le chômage, l'éducation, comme le handicap aussi. Donc il y a les différentes actions comme ça. Et il y a des centres plutôt de soins dans les pays comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie. En Amérique, beaucoup de post-cure pour les toxicomanes, pour ce genre de particularités. En Afrique, le gros sujet en ce moment, bien sûr, c'est la lutte contre le sida. En Asie, c'est les léproseries, des cliniques mobiles, etc. Donc, essayez toujours de manière très concrète de dire à l'être humain, Dieu ne t'a pas oublié, la preuve, il m'envoie te donner, il m'envoie te soigner, il m'envoie te dire qu'il t'aime. Avec des gestes, avec voilà, simplement un don tout simple de rejoindre les questions. C'est ce que Jésus a fait dans l'Évangile. Il a donné à faim, il a donné à manger aux foules. Il a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il a parlé à ceux qui avaient besoin de parler. Donc, si vous voulez apprendre par cœur les chiffres, je peux vous donner après le montage. Alors, aujourd'hui en France, 27 postes. Alors, les postes, c'est juste pour expliquer, le terme exact, c'est postes d'évangélisation. C'est-à-dire, c'est des lieux où il y a, à 50%, on va dire, plus ou moins, une action en faveur de la collectivité de manière sociale et 50% de manière spirituelle. Il y a d'autres centres qui sont à 90% sociaux, comme les centres de réinsertion. Ici, sur Strasbourg, on a un EHPAD au Neuf. On a un centre pour jeunes placés par la justice. Voilà, ils sont principalement sociaux. Et puis, voilà, les postes, on a cette mission spirituelle et en même temps, cette mission sociale de proximité. Donc, il y a des officiers, ça c'est comme moi, ce sont des personnes qui ont été consacrées et qui sont dans le ministère de l'annonce de l'Évangile. Des soldats, évidemment, la terminologie d'une armée, nous sommes une des plus grandes armées du monde, avec, si tu peux, les flèches, encore s'il te plaît. Alors ça, c'est sur Strasbourg. Peut-être certains connaissent les pas de Laurie Munch et le foyer du jeune homme. Le poste et Action Quartier à l'Elzo. On n'est pas les seuls Action Quartier, mais en tout cas, notre groupe qui est à l'Elzo. Alors, on va aller un peu plus près de nous. Merci. Pour notre poste à Strasbourg, on est situé au centre-ville, près du tram Langstrasse-Grand-Rue. On a une magnifique place, très bien. Donc, il y a 7 personnes qui sont à plein temps, 120 équipiers, pour approximativement 2500 personnes qui sont accompagnées chaque année. Quand je dis accompagner, ça englobe plein de démarches différentes. Hein. 2500 personnes, c'est individus, enfants et adultes. Et on sépare ça en 5 thématiques. Je suis plus très long, hein, vous inquiétez pas. 5 thématiques. La première, c'est le problème de la précarité. Et donc, on sert des petits déjeuners le matin pour les personnes qui sont sans abri ou qui ont passé des nuits difficiles. On a aussi des colis à cuisiner pour des familles qui ont besoin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y en a qui c'est pour cuisiner. Des vestiaires d'urgence. Il y a beaucoup de gens, vous savez, quand on vit dans la rue, les vêtements sont des vêtements jetables. Vous pouvez avoir un Levi's, vous pouvez avoir n'importe quelle marque sur vous, ça ne dure pas plus de 2 jours. Parce que dans la rue, c'est sale, c'est humide, et donc il faut changer régulièrement. Et ils n'ont pas forcément de machine à laver sur eux. Et donc c'est compliqué, donc on a vraiment besoin de pouvoir redonner des vestiaires régulièrement. Une boutique solidaire qui permet aux familles de pouvoir acquérir des vêtements à petit prix. Des cours de FLE, France, langue étrangère, français, langue étrangère, pour les personnes qui sont nouvellement arrivées dans le pays, qui ont besoin de s'intégrer, de pouvoir leur apprendre le français. Et puis le bénévolat. On propose aussi le bénévolat comme un outil de réinsertion, un outil de revalorisation de dignité. Quand une famille arrive, que le papa a travaillé toute sa vie et qu'il arrive et qu'il ne sait pas quoi faire, il a besoin de retrouver une dignité en gardant un rythme de travail. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de pouvoir accompagner les personnes. Donc les personnes qui viennent chez nous comme équipiers, d'ailleurs je vois plusieurs dans la salle qui sont équipiers chez nous. Bonjour Olga. Dans la soutien. Et donc, c'est pour nous vraiment important de pouvoir partager ça. Le programme jeunesse, soutien scolaire, scoutisme, animation, etc. Donc, vous pouvez voir. Là aussi, pour partager avec les jeunes les valeurs de l'Évangile et aussi les accompagner. On a aussi un programme famille pour les rencontres pour les seniors. Ça, c'est le grand souci aujourd'hui. Nos grands-parents vivent seuls dans notre société. Et régulièrement, pendant les temps de canicule, on dit « n'oubliez pas, pensez au Seigneur, pensez au Seigneur ». Et donc, on a régulièrement des rencontres avec les seniors qui viennent parce qu'ils sont seuls, ils ont besoin de retrouver. Et ça, c'est vraiment important. Des ateliers de bricolage et recyclage, des rencontres pour des mamans qui parlent que d'affaires de maman, que de business de maman, que de soucis de maman, même si les mamans n'ont jamais de soucis. Hein, c'est des superwoman, les mamans. Il y a des groupes de femmes qui parlent que de sujets pour femmes et des groupes d'hommes qui parlent que de sujets pour hommes. Voilà, ça c'est important de pouvoir séparer. Et il y a des camps en famille, il y a des camps de seniors, des camps de papa, des camps de maman. Et des camps, bien sûr, en famille. On n'oublie pas non plus, on ne va pas disséquer tout ça. Hein. Programme foi, mais ça c'était parce que c'est dans le montage. Je ne vais pas vous faire le détail, mais effectivement, on a tout le programme qui accompagne, bien sûr. Et le dernier, programme musique. Et là aussi, vous n'avez pas besoin, vous êtes très bien équipé ici à l'équipe. Et puis une dernière nouveauté qu'on va lancer. C'est la création d'un espace solidaire écologique. Quand on vit dans la rue, quand on vit en grande difficulté et qu'on entend partout la transition écologique, vous savez, ça ne veut pas dire beaucoup. Ça ne veut pas dire grand-chose pour quelqu'un qui n'a rien. La première chose, c'est manger et dormir. Et on est en train de travailler avec plusieurs personnes qui sont dans notre poste, justement, comment aujourd'hui intégrer cette notion du respect de l'environnement, respect de la création de Dieu. Quand on est dans la difficulté, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, voilà, on est, vous connaissez peut-être le label Église Verte, et donc on est lancé là-dedans pour justement accompagner le public dans cette direction de la transition écologique, même quand on n'a pas les moyens, comment on peut faire pour recycler et pour prendre soin de la création. Je pourrais parler pendant des heures, donc si vous ne partez pas, c'est que vous n'avez pas assez de... Je peux parler, mais en tout cas, tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, est-ce que je peux venir vous aider? Alors oui, on a toujours besoin de coups de main. La maison, elle est pleine comme un œuf du matin à 6h30 jusqu'au soir 20h. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Alors certains vont dire, mais je n'ai pas trop d'idées, ce n'est pas grave, venez. Nous, on a des idées pour vous. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc si vous voulez donner un petit peu de temps, un peu d'énergie, alors en accord avec Michel, hein, bien sûr, je ne fais pas ça dans son dos puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Si vraiment vous avez à cœur de pouvoir servir et d'annoncer l'Évangile par votre service, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour venir dans nos rangs. Pour ceux qui s'inquiéteraient, vous n'êtes pas obligé d'avoir un uniforme. Je sais pas, le look ne plaît pas toujours à tout le monde. Je ne suis pas non plus un super militariste, mais c'est comme ça qu'on s'habille, nous. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un uniforme. Mais si vous voulez servir le Seigneur et donner du sens à du temps que vous avez, des compétences que peut-être vous n'utilisez pas dans le cadre de votre travail ou du temps à donner, quel que soit votre âge, quelle que soit votre énergie, vous êtes les bienvenus. Merci de votre soutien.
Alors, comme d'habitude, le troisième dimanche du mois, c'est donc une intervention à caractère missionnaire. L'idée, c'est la suivante, c'est de permettre à l'Église aussi d'avoir une ouverture sur tout ce qui se fait en termes d'évangélisation et en termes de mission. Et dans ce cadre-là, on recueille une offrande. Alors, si vous êtes concerné, vous sentez interpellé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, la corbeille va passer pour une offrande missionnaire. Et cette offrande servira non seulement à des actions missionnaires générées par l'EPI, mais aussi pour soutenir l'œuvre de l'armée du salut. Et on va le faire en chant et en musique avec Vanessa et toute l'équipe. Voilà, donc ceux qui sont désignés pour passer avec les corbeilles, merci de bien vouloir passer. De quoi ?
Thank you.
Quand avec Michel, nous avons discuté à l'invitation qui m'était faite ce matin, évidemment, mon cœur est tout de suite allé pour un message d'encouragement à vous lancer dans le service. Et le Seigneur m'a dit, hop, c'est pas toi qui décides. Et jusqu'à ce matin, j'étais dans le tremblement parce que le Seigneur m'a demandé de vous dire quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de vous le dire, mais tout à l'heure, la sœur est venue confirmer quelque chose. Il y a un mot qui me traverse depuis longtemps. Vous savez, quand on est dans des mouvements comme l'Armée du Salut, jour après jour, on rencontre des personnes en difficulté. On rencontre des personnes qui sont attaquées par des différentes situations. Des fois, celles qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Parfois, c'est simplement, j'allais dire, la vie. Et il y a des moments, quand avec ma femme, on se retrouve le soir, on a l'impression que le monde entier vit des difficultés. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle. Je ne sais pas si les médecins ont ce sentiment aussi en fin de journée que tout le monde entier est malade. On est tellement dedans. Et il y a quelques mois, le Seigneur m'a interpellé en me disant, elle est où ta joie? Tu fais, tu travailles, tu fais les choses pour le Seigneur, c'est bien, tu travailles pour moi, c'est bien. Mais elle est où ta joie? Alors c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. La joie. La joie. Aujourd'hui, on vit dans un monde, il suffit d'ouvrir la radio, regarder la télé, lire les journaux, n'importe quel média, je ne parle même pas des réseaux sociaux, où on vit constamment dans le stress de la fin du monde. Vous avez remarqué ça? Et encore plus maintenant avec l'accélération du problème climatique, etc. On est toujours en train de... Et chaque jour, on apprend une nouvelle qu'il y a une espèce en voie de disparition, etc. Et donc, on est dans un espèce de stress. Et j'ai l'impression, c'est mon sentiment à moi, mais peut-être je me trompe, hein, qu'on est dans une espèce de morosité que même l'Église suit un peu. Et le Seigneur, il dit, mais elle est où ta joie? Elle est où ta joie de m'appartenir? Elle est où ta joie d'être sauvé? Vous savez que dans la parole de Dieu, on trouve 460 fois un passage qui nous parle de la joie. 460. Juste en comparaison, il y a 76 versets qui parlent du baptême. 460 fois, on nous parle de la joie. 365 de la paix. Mais 460 fois, la parole de Dieu nous dit « Sois joyeux ». C'est extraordinaire. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Dans un monde aujourd'hui qui vit sans joie, oppressant, ce mot, moi, m'interpelle beaucoup. Et le Seigneur me travaille. C'est ce que je voulais vous laisser. Je ne vais rien vous apprendre ce matin. Il n'y a pas de scoop. Voilà. Juste vous rappeler ce que le Seigneur m'a rappelé à moi. Vous savez, quand on apporte une prédication, on est le premier public. Joie. Philippiens 4:4. Pour ceux qui connaissent par cœur leur Bible, il n'y a pas besoin, mais il va être écrit quand même. Soyez toujours dans la joie, étant unis au Seigneur, je le répète, soyez dans la joie. C'est un impératif avec un point d'exclamation deux fois. Je le répète, en plus il le dit, soyez dans la joie. C'est bien la preuve que ce n'est pas naturel. Pourquoi Paul devrait le répéter en le disant en plus? Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, soyez dans la joie. Alors, l'apôtre Paul n'était pas un clown, hein. Quand on voit les enseignements, c'était plutôt quelqu'un qui avait l'air plutôt bien serré. Je pense que Jésus, lui, par contre, ça devait être un comique. Il a plein de blagues. Si vous regardez l'évangile, il y a quand même des miracles. On se dit, c'est quand même des blagues. Quand il marche sur l'eau, vous savez, quand les disciples sont en train de traverser, il dit, allez-y, je vous rejoins. Et il les suit après en marchant sur l'eau. C'est pas une blague, ça? Pourquoi il ne les a pas attendus de l'autre côté comme il l'a fait à d'autres moments? Il n'avait pas besoin de traverser si ce n'est pas pour se dire, je vais faire un petit coup. Hein, au revoir. Moi, je pense que j'ai eu plusieurs comme la fois où il guérit quelqu'un à moitié. Vous savez, connaissez le passage? Il met les mains, hein, ça va, tu vois? Non, pas vraiment. Ah, je l'ai bien eu. Mais l'apôtre Paul, c'était pas un clown. Jésus non plus, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, Jésus n'était pas un clown. Mais je pense que Jésus avait beaucoup d'humour. Et Paul dit, soyez toujours dans la joie. Moi, ça me percute. Ça me percute parce que si je m'arrête sur ce texte-là, mais sur d'autres, je vais vous en donner d'autres, hein, je pense réellement que la joie est la marque du chrétien. C'est la signature du chrétien. Je veux dire, c'est la signature de l'Église. Alors, si j'étais un peu vache, je dis « devrait être ». Et, c'est comme ça, c'est notre signature. Alors, je suis d'origine italienne, donc s'il y a des Italiens dans la salle, ne prenez pas mal, c'est une blague. Hein. quand on dit « les Italiens mangent beaucoup de pâtes ». Ou alors « en Arménie, on mange beaucoup de dolma ». Évidemment, c'est un cliché. On devrait pouvoir dire « ah, les chrétiens, ils sont toujours joyeux ». Ça devrait être automatique. Il y a un texte qui dit dans Romains 14 « En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson ». Bon, ça c'est par les pâtes, hein. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu, c'est la joie donnée par l'Esprit Saint. C'est notre signature. Dans votre quartier, là où vous habitez, là où il y a un chrétien, on devrait pouvoir dire « Oh là là, c'est bizarre, il y a de la joie par là ». Vous savez, quand vous habitez dans des coins où il y a des communautés qui, par exemple, font des fêtes, etc., on arrive à reconnaître au parfum de la cuisine, hein, la nationalité du groupe. Moi, j'ai longtemps habité au-dessus d'Indonésiens. Alors, ça sentait beaucoup le soja, etc., donc on savait très bien. Est-ce que mes voisins savaient que j'étais chrétien en disant « Oh, ça sent la joie, là ». Alors, je sais pas quel parfum a la joie, hein, mais est-ce qu'elle a la joie ? C'est la signature, c'est la marque de l'Esprit Saint. C'est donné par l'Esprit Saint. C'est la marque de la présence de l'Esprit Saint. Il nous la donne. Jean 15, c'est Jésus qui parle. « Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. » C'est pas magnifique ça ? C'est pas extraordinaire comme parole ? Tout ce qu'il fait, merci, tout ce qu'il fait, c'est pour nous donner la joie. Alors on est d'accord, c'est pas pour la bonne humeur, c'est cette joie profonde. Pas comme le monde la donne, une joie profonde. Et j'aimerais juste trois points. Retenir trois points ce matin. D'abord, ma joie, elle me vient du salut. La réconciliation avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Est-ce qu'il y a un plus grand sujet de joie ? Réconcilier avec ma femme, c'est déjà un peu compliqué. Avec mon voisin, le patron, on s'en fout. Mais réconcilier avec Dieu, celui qui est à l'origine de tout, celui qui est à l'origine de l'amour, celui qui est à l'origine de ce geste de donner Jésus, je suis réconcilié avec lui, c'est pas génial ? Est-ce que ça ne devrait pas suffire comme argument dans ma vie pour me dire « j'ai la joie » Je ne sais pas si vous vous rappelez du moment où vous êtes rené, le moment de cette nouvelle naissance. Vous vous rappelez de ça ? Moi, je me rappelle très bien, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, à deux jours près, en juillet, j'avais les cheveux longs à l'époque et la barbe. Et j'étais musicien professionnel sur Paris. Et l'Armée du Salut a organisé une grande tournée avec une comédie musicale. Et il fallait jouer La vie de Jésus. On me dit, toi, t'es impeccable. Et comme moi, à l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur et j'étais imbu de moi-même, j'ai dit, évidemment, je suis fait pour ça. Et j'ai joué ce rôle-là de la vie de Jésus. Et on l'a joué pendant un mois. On a fait le tour de France comme ça, on a joué... c'est l'évangile. Et puis, chaque soir, il y avait des gens qui venaient et je signais des autographes. Je me rappelle même une fois, j'ai signé Jésus. C'est normal. Ça valait le coup quand même. Et ça m'a bien fait rire. Et puis, vers la fin de la tournée, quand même, on n'est pas insensible. Quand on vit l'évangile, on n'est pas insensible si on est sincère. Et je pense quand même que j'étais sincère et en recherche. Et à un moment donné, au moment de la scène de la croix, sur la fin de la tournée, j'étais en croix, c'était une mise en scène très moderne, et j'étais en croix comme ça. Et en plus, les copains qui jouaient les soldats avaient vraiment bien joué leur rôle. Ils m'avaient bien jeté par terre, ils m'avaient bien frappé. Ils étaient tout contents de jouer, ils étaient dans leur rôle, quoi. C'était biblique. Et voilà, et j'étais en croix, je me rappelle encore, et... Il y avait dans une grande église, il y avait l'orgue au fond, il y avait un grand miroir pour l'organiste. Et je voyais dans le miroir la scène qu'on était en train de jouer. Et là, le Seigneur m'a percuté. Il a dit, tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu es en train de faire le guignol, là ? Mais tu te rends compte du message qu'il est en train de faire passer ? Tu es en croix, là, et après tu vas signer des autographes ? Est-ce que tu te rends compte de ce que moi j'ai fait au travers de la croix ? Vous savez ce que c'est ? Le sentiment de culpabilité. Pas simplement « oh là, j'ai mal fait ». C'est ce sentiment profond qui vous dit que vous êtes sale. Et ce n'est pas seulement d'avoir signé Jésus qui était sale. C'était toute la vie d'avant. Tout ce que j'avais construit, j'avais mal construit, mes fausses croyances. Et je me rappelle très bien que la nuit qui a suivi, j'ai passé une nuit blanche à discuter avec le Seigneur, à pleurer, à confesser mes péchés. Et le sentiment que j'avais le matin en me levant, ouh ! Ah, je serais allé sur la lune jouer la comédie musicale. Hein. J'aurais tenu la croix pendant 20 minutes s'il fallait. Il y avait ce sentiment de joie, quelque chose, mais vous savez, quand vous êtes en dispute avec quelqu'un et qu'après vous vous réconciliez, oh, il y a quelque chose de fort qui est là. Combien plus forte raison la réconciliation avec Dieu. Il a payé le prix fort pour cette réconciliation. On n'a rien fait, nous. Il a tout payé. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés. Alors souvent, à cette époque-là, je faisais la comparaison. Parce que je ne supporte pas les piqûres, vous savez. Chaque fois que je vois une piqûre, je tombe dans les pommes. C'est facile, seringue, boum, radical. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu en disant, toi, tu ne supportes pas même la vue d'une piqûre. Jésus, on l'a cloué. Il a donné sa vie dans la souffrance. Ce n'est pas on l'a débranché. Ce n'est pas d'un coup, il s'est éteint dans le sommeil. Il a souffert consciemment en portant la culpabilité de ma propre vie multipliée par le nombre d'êtres humains. Moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Et cette paix et cette joie, c'était extraordinaire. Donc ma joie, évidemment, je l'ai dans le salut. Deuxième point, ma joie, je l'ai dans mon espérance. Pendant longtemps, l'espérance de la vie éternelle, ce n'était pas mon kiff. Il paraît que plus on grandit en âge, plus on est conscient. Quand j'avais 20 ans, je n'étais pas conscient. Et à un moment de ma conversion, la vie éternelle, ce n'était pas un truc... En plus, on me disait, tu verras, c'est super, c'est comme au culte, on va chanter tous ensemble et tout ça. Vous imaginez pendant l'éternité chanter ? Moi, j'aime bien chanter, hein. Vous imaginez pendant l'éternité être à côté de votre voisin là, l'éternité, vous pouvez pas bouger, ah, super. C'est faux, hein. Mais c'est ce que j'avais dans ma tête. Alors moi, l'éternité, bon. Mais quand le Seigneur m'a travaillé, il dit mais tu es réconcilié et tu vas passer l'éternité avec moi. C'est génial d'être dans l'éternité en présence de Dieu, parce que c'est pas seulement être en sa présence, mais d'être dans le royaume que lui dirige, en dehors des conditions de notre monde ici, en dehors des conditions politiques de notre monde, en dehors des conditions humaines de notre monde. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrances. Voilà, moi c'est ce monde vers là, vers ce monde que je vais. Et ma joie est nourrie par cette espérance. Il y a une famille qu'on accompagne au poste à Strasbourg, qui vient d'un petit pays de l'ex-Union soviétique. Et quand ils sont arrivés, ils ont traversé l'Europe à pied. L'Europe à pied. Vous imaginez ? L'Europe à pied. Et ils sont arrivés, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ça ? On traverse l'Europe à pied, mais c'est quoi qui vous fait ? Ils nous ont dit, mais pour nous, c'est pas grave, mais pour nos enfants, je sais qu'ils vont avoir une belle vie après. Waouh ! C'est fou ! Les gens qui font ça, c'est incroyable. Mais moi, dans ma vie chrétienne, c'est ça, je sais qu'aujourd'hui, le choix que je fais et la réconciliation que j'ai en Christ, la réconciliation avec le Père, waouh, ça va être génial. Je vais être déconnecté de toutes les conditions humaines aujourd'hui qui me retiennent et qui me font souffrir. Plus de maladies, plus de pleurs. Aujourd'hui, on a reçu notre passeport de citoyen du ciel. Vous avez votre passeport ? Moi, je l'ai. Et je n'ai pas payé le timbre en plus, c'est Jésus qui l'a payé. Et depuis, j'ai reçu un visa touristique pour la Terre, temporaire. Et celui-là, je le paye. Hein. Troisième point, ma joie s'appuie sur la confiance. La confiance que j'ai en mon Dieu. J'ai longtemps lutté avec le Seigneur. Même après ma conversion, des fois je lutte encore. Je guéris hein, petit à petit, mais je suis encore dans la lutte. Hein. Mais quand je vois certains personnages qui ont lutté, je me dis, bon allez, moi aussi un petit peu. Je ne suis pas Abraham, mais si lui l'a fait, je peux un peu quand même. Hein. Je lutte avec le Seigneur, et c'est vrai que ma vie de prière est mise à l'épreuve. Je ne sais pas la vôtre, hein, peut-être pas vous, mais moi elle est mise à l'épreuve. Combien de fois je prie, et je n'ai pas la réponse. Je demande, et j'ai la réponse à côté. Moi, je demande au Seigneur quelque chose de très précis, parce qu'il dit, sois précis dans tes prières, je demande quelque chose de précis, et il me donne autre chose. Persévère dans la prière, je persévère, et il n'y a rien. Ça ne vous arrive peut-être pas à vous, hein. Mais moi, ça m'arrive. Et je dois confesser que des fois, dans ma vie chrétienne, j'ai perdu confiance. Oui, je sais, Dieu tout-puissant, Dieu est souverain, mais je dois avouer que parfois j'ai perdu confiance en mon Dieu. Pas confiance dans le sens, oui, je sais qu'il est fiable, mais je ne voulais plus rien lui demander. Parce que chaque fois que je lui demande ça, il me donne ça. De toute façon, j'ai beau lui demander, il ne me donne rien. Et le Seigneur a dû faire un travail en moi. On ne pourra avancer qu'à partir du moment où on a confiance l'un dans l'autre. Et ma joie doit être nourrie par la confiance que j'ai totale en mon Dieu. Le lâcher prise en mon Dieu. Parce que je sais qu'il est tout puissant. Je sais qu'il sait tout. Je sais qu'il sait exactement de quoi est fait mon lendemain. Je sais qu'il sait exactement la parole que je vais donner demain. Il sait les conditions que je vais traverser. Il sait tout. Et je dois proclamer que sa souveraineté n'est pas discutable. Et j'ai appris quelque chose, c'est que je dois encore apprendre et réapprendre à entendre sa voix. Parce que ce n'est pas que la parole qui compte, c'est le ton. Moi, j'ai eu un papa très sévère. Il a du mal avec moi. Et quand il écrit une parole, maintenant sur Internet, on s'écrit parce qu'on est loin, quand je lis la phrase, je vois ses yeux, j'entends sa voix. Ça vous fait ça aussi? Sois sage. J'ai 50 ans, sois sage. Papa, on se calme. Hein. Mais dans sois sage, je vois ses yeux bleus. Qui sois sage. C'est pas fais des efforts, c'est t'as intérêt à assurer, mon gars. C'est pareil, la parole de Dieu, quand elle nous est donnée, c'est pas seulement la phrase qui est là, mais c'est passer du temps avec le Seigneur pour entendre le ton du papa qui parle. Pour reprendre confiance. Parce que quand je prie ça et que j'ai ça, c'est pas pour m'embêter. C'est parce qu'il sait pertinemment que ça, c'est meilleur pour moi. Et il sait ce qu'au fond de mon cœur j'ai, parce que le Saint-Esprit intercède auprès de Dieu pour traduire ce que mes paroles disent. Et ma joie doit être ancrée sur le salut. Absolument. Sur la confiance et sur l'espérance. Alors moi, je me pose la question, et c'est par ce point-là que je termine. Comment ça se fait que dans l'Église, on soit si nombreux à être pessimistes? Pas ici, pas chez vous, mais chez nous. Pessimiste en chef. Hein. Pourquoi? Il y a des tas de... Voilà. Dans mon bureau, j'ai une boîte avec des mouchoirs. Et ceux qui l'utilisent, ce n'est pas forcément ceux qui sont tristes. Hein. C'est « Oui, t'as pas fait, oui, pourquoi? Et pourquoi un tel ?» Je dis ça, ils sont gentils, hein, je les aime beaucoup. Hein. Mais je ne peux pas parler sur vous, donc je parle sur eux. Pourquoi l'Église est si pleine de pessimisme? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont si tristes? Le Seigneur nous dit, apportez vos problèmes, apportez vos soucis. Et comme on l'a entendu ce matin, notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Vous connaissez la phrase, hein? Ne dis pas à Dieu que tu as des grands problèmes, dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Ça, c'est radical. Que dit-on de l'Église aujourd'hui ? Si vous lisez la presse, on est des rabat-joie. On empêche tout le monde de tourner en rond. On n'est jamais content. Dès qu'il y a une nouvelle loi, pas content. Est-ce qu'une fois, on pourrait dire, oh, l'Église, elle est super heureuse ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être vous connaissez la citation. Ça, c'est une citation qui est dans mon bureau. Et je la donne quasiment tout le temps. Bon, pas chaque dimanche, hein, mais c'est Coluche, une fois qu'il a dit « Les jours où les chrétiens auront une gueule de ressuscité, je voudrais bien croire moi aussi. » C'est une parole forte, un peu violente, je vous l'accorde. Mais ça, c'est pour nous, ça doit être un encouragement. Si vous me passez l'expression, que nous ayons des gueules de ressuscité. Que nous soyons des porteurs de joie. On va inventer un verbe ce matin, vous voulez bien ? On va joyeuser le monde. J'aime bien inventer des choses, donc on va inventer un mot pour nous ce matin. On va joyeuser le monde. Parce que quand on regarde ce que le Seigneur a fait pour moi, ce qu'il a donné pour moi, ce qu'il a changé en moi, c'est tellement plus grand que tout ce qui peut m'arriver. Et je ne dis pas qu'il ne m'arrive rien. Je ne dis pas que je ne peux pas être malade. Dans notre famille, nous sommes leucémiques de génération en génération. Mon père a la leucémie, ma tante, qui était missionnaire au Congo, est décédée d'une leucémie, mon oncle, qui était évangéliste sur Paris, est décédé d'une leucémie, mon cousin, qui était un chrétien engagé à Avignon, est décédé d'une leucémie, un autre cousin à moi est décédé d'une leucémie, donc je peux témoigner que même dans la maladie, le Seigneur peut se glorifier. Je remercie le Seigneur que je n'ai pas la leucémie. Mais même dans la difficulté. Vous savez, je suis allé aux obsèques de mon cousin, qui avait mon âge. Et ça faisait pendant des années, on n'avait pas eu de contact. Et j'avais l'impression, le peu de contact qu'on avait, qu'il avait laissé le Seigneur. Il a grandi comme moi, dans une famille avec des personnes qui étaient présentes, qui étaient pleines d'amour, qui ont parlé du Seigneur comme ils ont pu. Et pendant des années, on n'a plus de contact et on ne parlait plus du Seigneur. Et le jour de ses obsèques, c'est ses collègues de travail qui ont témoigné en disant « David, il s'appelait David, a été un témoin de Dieu au milieu de notre travail. » Personne ne savait ça. Sa maman ne savait pas. Le Seigneur peut se glorifier même dans des temps comme ça. Donc même dans des temps de difficulté, même dans des temps de maladie, le Seigneur peut ancrer en nous sa joie. Ça n'enlèvera pas les difficultés, ça ne change pas la tête du chemin, mais ça change notre cœur. Et j'allais dire encore plus dans les difficultés, encore plus dans la souffrance, encore plus dans l'épreuve. C'est la marque du chrétien. Romains 8, 38, « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Amen. Elle est juste. Qu'est-ce qui fait que ma joie s'en va alors ? On peut vous voler votre joie. C'est le job de Satan. Il veut voler votre joie parce qu'il ne peut pas voler votre salut. Il veut voler votre joie. Parce que j'entends déjà plusieurs, il est marrant le petit major de l'armée du salut. Il ne sait pas par quoi je passe, il ne sait pas les difficultés. Et c'est facile avec un micro de dire des belles choses. Mais je suis pareil. Et Satan peut venir voler notre joie. Il peut le faire. Vous faire perdre votre joie. C'est son but. Il veut ôter cette joie que le Seigneur a lui-même envoyée dans votre cœur. Le psaume 51, on n'est pas les premiers. Qu'est-ce que disait David au psaume 51 ? « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. » Rends-moi la joie, on me l'a volée. Récupère-la et redonne-la-moi. On me l'a volée. Et les moindres événements de nos vies, Satan peut s'en servir pour vous voler votre joie. Et vous savez, il n'y a pas de gros ou de petits événements. Il suffit déjà d'une petite étincelle. Moi, je me rappelle, avant d'être dans le ministère, le dimanche matin, le champ de bataille à la maison, il faut être à l'heure, il faut se dépêcher, les enfants, blablabla. Et on arrive tous stressés par le culte, on va pas être à l'heure, on va pas y arriver, etc. Rien que ça, ça peut vous faire passer à côté du culte. Ça peut vous faire passer à côté de la parole que le Seigneur veut vous donner. Mais c'est le job de Satan. Il veut tout faire pour pas que vous entendiez ce qu'il a à vous dire, le Seigneur. C'est une arme que Satan veut utiliser. Alors je vous encourage à vous mettre dans la prière et de refuser que Satan vous vole votre joie. Je trouve, c'est mon sentiment à moi, et peut-être pas ici, hein, je trouve qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui critiquent. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui prennent position contre d'autres frères. Il y a beaucoup trop de frères qui prennent position contre l'équipe pastorale. Les équipes pastorales, je ne parle pas de celles-ci. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui ne se soutiennent pas. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont pessimistes quand ils regardent le monde. Il y a trop de chrétiens qui se positionnent dans le négatif. Il y a trop de chrétiens qui ont des paroles dures. Mais je sais que ce n'est pas notre désir. On a envie d'aimer. Mais Satan veut nous voler notre joie. Et veut qu'entre nous, on mette la zizanie. Il cherche à nuire. Nous sommes un peuple de joie. C'est dans notre ADN spirituel. Amen. Et normalement, vous allez faire comme tout le monde, hein, comme moi, hein, la sortie du culte. Et c'est reparti. Notre première réunion de bienvenue, quand on était avec mon épouse dans le ministère, notre première réunion, on est allé dans une communauté à Saint-Étienne. On était à côté, d'ailleurs, pas très loin de l'église des Assemblées de Dieu, avec un frère, pasteur Faux, je ne sais pas si vous connaissez. Et la première réunion de bienvenue, il y avait une dame au premier rang, je ne sais pas si vous connaissez les vampes, habillée d'une robe en laine d'un seul tenant, des rangers aux pieds et une canne faite à la main en bois de châtaignier. Elle était là devant. Et moi, petit jeune, j'allais prêcher sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres, vous allez voir, on vient d'arriver, ça va être super, on va vivre quelque chose de fort. Et à la fin de la réunion, après la bénédiction, elle est allée à la porte et elle avait sa canne levée comme ça. Et moi, je sors pour dire au revoir aux gens. Les premières fois quand je dis au revoir, hein, voilà. Et je vois cette dame, là, avec sa canne comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Oh, mais je vais l'assommer, l'autre ! Alors, je dis, mais attendez, on a parlé de l'amour, peace on earth, voilà, tout va bien, etc. Avec sa canne comme ça. Elle me dit, oh, on voit bien, vous êtes un jeune chrétien, vous. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Et elle attendait pour casser la figure à l'autre dame. Elles avaient que 75 ans, les deux, hein. Voilà, c'est. Je parle pas de deux ados, hein. Voilà, hein. Nous sommes un peuple de joie, c'est notre ADN. Pas que le dimanche matin. Quand on va sortir, moi je vous encourage. Je vous encourage vraiment à joyeuser le monde. Pour joyeuser le monde, il faut demander au Seigneur de nous rendre la joie de notre salut. Amen. Moi j'aimerais vous demander si maintenant ce matin il y a quelqu'un qui a perdu sa joie, à qui on a volé sa joie. Parce que les événements de la vie sont là et je peux vous promettre une chose, il y en aura d'autres. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui ce matin est ruiné à l'intérieur par des paroles négatives, par des paroles de destruction, par des paroles de jugement ou par le sentiment d'être écrasé. Le Seigneur veut vous redonner la joie. Il ne va pas bouleverser d'un seul coup tout le monde en un monde tout rose, mais il va vous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort parce qu'après il y a la vallée des fleurs. Si vous avez besoin de redemander au Seigneur la joie, levez-vous maintenant. Le Seigneur veut vous rendre la joie. Il veut vous redonner la joie du salut. Et il veut que vous joyeusiez le monde. C'est magnifique quand on donne la joie. Parce que quand on partage un gâteau, on en a moins. Quand on partage son toit, on n'en a ni plus ni moins. Mais quand on partage sa joie, on en reçoit plus. Si vous voulez redemander au Seigneur qu'il vous redonne votre joie, levez-vous maintenant, je vais prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prenons conscience du prix que tu as payé pour nous donner cette joie. Cette joie qui nous, qui nous bouscule et qui nous amène à regarder vers devant, vers cette vie éternelle, cette vie extraordinaire dans la présence de ta présence, qui nous sort de nos conditions humaines. Cette joie que tu as tout mis en place pour que nous puissions être sauvés, pour te réconcilier avec nous, et que nous puissions nous être réconciliés avec toi. Merci Seigneur, parce que nous voyons que jour après jour, dans les petits détails de notre vie, tu interviens. Dans les petits détails de notre vie, tu es concerné. Et tu agis comme un père, comme un éducateur, comme un accompagnateur, comme un meneur dans notre vie. Et nous voulons proclamer que c'est toi qui es souverain dans notre vie. Et c'est pour ça que nous te demandons de nous redonner la joie. La joie nous a été prise, mais c'est au nom de Jésus maintenant que nous redemandons la joie. La joie de ton salut, Seigneur. Pour que nous puissions à notre tour partager, redonner. Parce que ce n'est pas la joie qui nous appartient, c'est une joie qui a été faite dans notre cœur. À toi toute la gloire, Seigneur. Et je présente mes frères et sœurs qui sont là debout maintenant. Tu vois leur désir, tu vois leur cœur, tu vois leur situation. Tu vois ce qui maintenant leur pèse. Tu vois ce qui peut-être les empêche de regarder à cette joie, de se nourrir de ta présence pour laisser embellir leur joie. Tu vois, tu connais exactement de quoi est fait leur vie. Mais je te les présente un par un, chacun, parce que dans ton cœur, ils ont chacun une place. Et tu veux redonner la joie, parce que c'est au prix de la vie de Jésus que tu as acquis nos vies. Nous t'appartenons. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis.